RCF. Bonsoir à tous. En effet, c'est pas une surprise parce que le jeudi, on va retrouver bien entendu nos chroniqueurs habituels. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous.
Et aux auditeurs de RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes. Très très bon magazine. Merci de nous suivre.
Effectivement, vous l'avez dit Jean-Pierre, il y a les habitués du jeudi, parmi eux Gérard-Marie Henry pour la question d'économie. Bonsoir Gérard-Marie.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Vous dégainez plus vite que Luc et Luc. La semaine dernière, on parlait voiture électrique, on a parlé options d'achat sur les véhicules en location et leasing. Le soir même, vous m'envoyez une chronique, vous m'avez dit la semaine prochaine, on détaille vraiment ce que c'est ces histoires de location de véhicules avec les options d'achat, le leasing, etc.
On va faire ça ce soir.
Gérard-Marie Henry ne se repose jamais, vous le savez. Jean-Pierre Benoît, vous ne reposez jamais non plus, puisque à 18h20, vous interrogerez un maire.
Absolument, ce sera Claude Mauprivet, le maire de Bouilly dans la Marne.
Et puis, on vous retrouvera aussi en deuxième partie d'émission avec Bernadette Courtéou.
Absolument, Bernadette Courtéou est responsable de la mission ouvrière. Elle revient de Lourdes, où elle a participé au rassemblement Kérigma avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, d'ailleurs qu'on retrouvera demain en direct à 7h et 8h sur RCF Reims-Ardennes.
Et dans le magazine régional, évidemment, demain soir, parmi les événements diocésains à vous présenter, un rassemblement à l'Épine était organisé début octobre, enfin il y a quelques jours, pardon, du 21 au 23 octobre, autour du thème « Parle, mon cœur est prêt ». C'était un rassemblement des scouts universitaires de France et c'est des rassemblements entendre au pluriel parce qu'il y en avait deux en un. On vous en dira plus tout à l'heure aux alentours de 18h40. Et puis très rapidement, on sera avec Luc Genet, président des Amis de l'Ermitage à Saint-Valfroy, puisqu'il a un rendez-vous annoncé pour ce samedi du côté de Margues. C'est un loto pour soutenir l'association des Amis de l'Ermitage Saint-Valfroy. Et vous savez que RCF est toujours partenaire de l'association en lien avec ses Amis de l'Ermitage Saint-Valfroy, Jean-Pierre.
Absolument, Saint-Valfroy là-bas, à quelques kilomètres d'Orval, de la Meuse, de la Basilique d'Avignon, dans ce formidable écrin de cette montagne de Saint-Valfroy.
Dans le magazine régional, on voyage. Et pour bien voyager, il faut parfois une bonne auto. C'est pour cela que l'on retrouve Gérard-Marie Henry avec nous. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis.
Gérard-Marie, la semaine dernière, on parlait véhicule électrique et on se demandait finalement quel était le meilleur moyen d'investir. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous consacrez cette chronique à la location avec option d'achat ou aussi au leasing. Gérard-Marie Henry, alors finalement, quels sont les avantages et les inconvénients du leasing auto?
Bon, alors il y a beaucoup d'avantages, il y a quelques inconvénients, mais les avantages sont évidents. Vous ne sortez pas votre capital, vous payez des petites mensualités. J'ai fait un exemple, si vous voulez acheter une Peugeot 208 électrique, avec tous les bonus, etc., ça vous revient à 24 500 euros qu'il faudrait sortir.
Et comptant ou faire un emprunt à la banque?
Emprunter à la banque, donc vous, votre capital va être mis dans votre voiture. Et puis, à face de ça, vous avez deux solutions. Première solution, vous prenez la voiture sur 49 mois sans payer de location initiale. Ça vous coûte 271 euros par mois, donc ce n'est pas extraordinaire. Et puis, il y a une formule encore plus légère. Bien sûr, là, il faut sortir un premier loyer de 2000, mais après, c'est 130 euros pendant 36 mois. Avec quand même l'idée que vous ne devez pas dépasser 500 km par mois. C'est un des inconvénients mineurs de la location avec option d'achat, c'est que vous avez un kilométrage qui est fixé et que si vous le dépassez, bah vous devez payer un petit peu plus.
Une question de Jean-Pierre.
Bah oui, parce qu'au bout des 36 mois, Gérard-Marie, on repart sans rien.
Vous ne l'avez pas. Vous n'en avez pas.
C'est ça, les gens ne comprennent pas toujours.
Bah, vous n'êtes pas propriétaire, vous utilisez la voiture. Vous avez le droit à l'usage de la voiture. Évidemment, en fin de contrat, vous pouvez l'acheter au prix Argus. C'est une voiture qui a maintenant 3 ans, donc vous payez pour acheter la voiture. Bon, en général, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de reprendre un contrat, d'avoir une nouvelle voiture neuve, de repayer les 200-250 euros par mois. Et vous roulez toujours avec un véhicule qui est neuf, sans avoir coincé votre capital, sans avoir emprunté. Donc c'est une formule qui a une belle flexibilité.
Mais l'intérêt est aussi pour les concessionnaires d'avoir eux ces véhicules à disposition et de finalement jamais céder de véhicule au client.
Oui, mais là, c'est pas moi ce qui m'intéresse quand j'ai une voiture, c'est l'utilisation. Que c'est pas marqué sur la porte, n'appartient pas à Gérard Henry. Hein, le véhicule ne lui appartient pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rouler dans une voiture assez convenable, neuve, entretenue, qui est dans le contrat que j'ai signé au départ et qui va être ajustable. Alors, vous pouvez prendre, comme vous l'avez vu, des contrats relativement longs, 49 mois. Ou vous pouvez prendre des contrats plus courts. À chaque fois, il y a une clause kilométrique qui s'adapte. Donc au départ, quand je faisais cette formule, je prenais 60 000 km sur les 3 ans. Puis après, on s'est aperçu qu'on en faisait moins, donc on a pris 40 000 sur 3 ans, mais avec à chaque fois le même système qui permet donc de renouveler la voiture lorsqu'elle arrive au bout des 3 ans, ou, cas ultime, de dire bah, « cette fois-ci, c'est ma dernière voiture, je la garde et je vais payer pour l'obtenir ».
Question quand même, Gérard-Marie-Henri, on parlait des avantages, des inconvénients. Pour l'entretien, par exemple, c'est pris en charge par le garage, ça se met dans le contrat.
Tout à fait, oui,
on pense notamment aux révisions, c'est quand même un coût annuel, etc.
Tout est dedans le contrat. Hein, le contrat mensuel, alors évidemment, ça ne va pas changer vos pneumatiques, l'usure des pneumatiques, c'est vous qui la prenez. Si vous freinez beaucoup et que vous avez moins de gomme, bah, c'est vous qui allez changer votre pneumatique. Mais en général, sur 3 ans, moi, c'est la 7e expérience que je fais. Hein. Vous voyez que ça remonte à assez longtemps. Bah, j'ai jamais eu de problème. Les révisions sont faites. Et maintenant, avec les véhicules qu'on a, les révisions, on en a une sur les 3 ans au maximum. Et les prises en charge par l'abonnement que vous avez par ce contrat.
Et c'est tous les constructeurs pour tous les modèles
qui
proposent ce genre
absolument.
De...
Bon, j'ai regardé Peugeot parce qu'on avait parlé de la Peugeot électrique, donc j'ai regardé combien ça coûtait. Mais vous allez chez Renault, vous allez chez Citroën, c'est Peugeot, c'est la même maison, mais vous allez chez Fiat, chez BMW, chez Mercedes. Tout le monde fait des propositions en location avec option d'achat, LOA, qui sont assez intéressantes et qui vous permettent d'avoir un véhicule que vous n'auriez pas forcément pu vous payer.
J'allais dire, hein. Gérard-Marie-Henri, est-ce que peut-être le citoyen lambda peut se sentir surclassé avec cette offre?
Ah bah, vous pouvez avoir une belle voiture à 100 000 euros avec un loyer qui va quand même être peut-être de 1 000 euros par mois.
Quand même, il faut pouvoir les sortir.
Il faut pouvoir les sortir, mais vous pouvez vous dire, tiens, un jeune qui a un revenu assez important au départ, pas de charge de famille, etc., peut se dire, je vais rouler pendant 30 mois dans vraiment un carrosse, quoi. Dans vraiment une voiture qui jette, et peut-être que comme ça, je rencontrerai une personne qui va être attirée par mon véhicule.
Et ensuite, il roulera avec elle en Clio.
Après, il prendra une petite Clio. D'occasion, bien sûr.
Vous le disiez, Gérard-Marie-Henri, néanmoins, la grosse contrainte de cette option, c'est si on veut acheter le véhicule derrière, c'est pas toujours avantageux.
Ah bah non, normalement, vous ne devez pas vouloir acheter. Parce que si vous voulez acheter, effectivement, vous allez acheter un véhicule qui n'est pas neuf, vous allez le payer moins cher, mais c'est pas la bonne solution. Si vous voulez l'avoir vraiment à vous, pour graver vos initiales, il y a une autre petite contrainte, hein, c'est que vous n'avez pas le droit de modifier le véhicule. Hein, vous pouvez pas mettre des trucs en plus.
On peut pas mettre des LED, vernir les vitres,
non,
c'est fini.
Pas, non, vous le rendez.
Pas de tuning.
Absolument pas de tuning. Vous le rendez dans l'état initial que vous avez choisi, bien sûr. C'est vous qui avez pris les options qui vous intéressaient. Hein. Et en fonction des options, bah, vous avez un coût de la location qui peut être plus ou moins élevé. Mais après, vous ne touchez pas au véhicule. Et vous le rendez au bout des 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Vous êtes un adepte de cette pratique, vous l'avez dit, ça fait 7 ans que vous travaillez comme ça avec votre concessionnaire, Gérard-Marie-Henri, et il faut dire que vous n'êtes pas le seul, puisque de plus en plus de Français sautent le pas.
Absolument, on a une explosion, même pour des achats, même pour, je me trompe, hein, ce ne sont pas des achats, mais même pour des LOA de voitures d'occasion. Là, j'ai surtout parlé du neuf,
mais ça existe aussi en occasion.
Absolument, les constructeurs proposent, vous pouvez avoir une belle voiture qui a 3 ans et on vous fait un contrat sur mesure avec des mensualités qui sont faibles et quelque chose donc qui s'adapte à votre cas particulier, sans être obligé d'aller voir une banque et de payer les remboursements d'intérêts sur un capital beaucoup plus important.
Et c'est peut-être quelque chose qui fonctionne bien aussi, parce qu'on sait qu'avec le pouvoir d'achat qui diminue, c'est de plus en plus difficile de pouvoir accéder
Absolument.
Au prêt pour acheter un véhicule.
Absolument, et puis en même temps, vous avez peut-être besoin de votre capital pour d'autres utilisations, peut-être que vous voulez accéder au logement, etc. Là, vous n'êtes pas obligé de sortir les 24 000 dont vous auriez besoin.
Bah alors Gérard-Marie, tout le monde y gagne, vous dites...
Oui.
Le consommateur y gagne, mais le constructeur, il y gagne aussi certainement parce qu'il a une deuxième vie pour la voiture.
Absolument. Et puis, il fidélise, en fait, si la voiture a plu à la personne, eh bien, il va revenir chez le même constructeur. Il va dire, tiens, c'était bien, il m'a fait les bonnes révisions et je vais prendre le modèle un peu au-dessus la fois suivante avec un peu plus de gadgets, etc. Et donc, c'est comme ça, par exemple, que bah, nous sommes restés chez BMW depuis 3 fois 6, 18 ans.
Par contre, j'allais dire, Gérard-Marie-Henri, c'est vrai que pour la personne qui prend cette formule, elle est locataire à vie.
Non, elle peut changer de voiture.
Ouais, ça paraît quand même compliqué.
Mais non, pas du tout. À la fin des contrats des 3 ans, vous dites je ne garde pas la voiture, je ne reprends pas le contrat chez vous.
Mais elle continue de repayer un loyer par un autre concessionnaire.
Ah bah oui, d'accord. Mais à chaque fois, un loyer qui correspond bien à l'usage que vous faites de la voiture. 200, on a vu là, 130 euros par mois pour cette Peugeot électrique, c'est quand même pas extraordinairement cher.
J'ai justement envie, si j'ai le temps, Alexis, de poser la question qui va peut-être fâcher. Vous, à titre personnel, Gérard Marie, si vous prenez une Léoa, vous prenez une voiture électrique ou une voiture essence ?
Ah, bonne question. Pour l'instant,
vous hésitez encore un peu ?
Oui, oui, absolument.
Moi, je pense pour le moteur thermique, personnellement.
Une voiture hybride rechargeable. Je crois que c'est la solution qui concilie à la fois la circulation électrique en ville. Vous avez 60-70 km d'autonomie. Et quand vous voulez faire un grand trajet, comme ça m'arrive parfois pour aller jusqu'à la Bretagne, bah, vous utilisez votre moteur thermique et donc vous n'êtes pas coincé par le problème des bornes électriques.
Mais c'est cher d'avoir les deux en hybride. C'est plus cher quand même.
Un peu plus cher, oui, bien sûr. Vous comptez 5 000 euros, puisque en fait il y a deux moteurs dans la voiture,
bah oui,
donc c'est plus compliqué. Hein. Vous avez à la fois un moteur électrique, vous avez le moteur thermique, et puis vous avez quand même une batterie qui n'est pas aussi importante que la voiture électrique complète, mais qui est quand même d'une centaine de kilos, et donc il faut payer. Mais c'est la formule qui permet de concilier pour l'instant le manque de risque de ne pas trouver de borne, et puis l'utilisation électrique urbaine.
Eh bien, merci Gérard-Marie Henry de nous avoir conseillé sur le contrat location avec option d'achat et sur le leasing pour les voitures. Gérard-Marie, on vous retrouve très prochainement.
On se retrouve bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et à 18h22, pendant les vacances, on continue de retrouver des maires qui nous parlent. Certains étaient déjà avec nous en début d'année, Jean-Pierre, comme celui de ce soir, Claude Mauprivé, maire de Bouilly, qui s'entretient avec vous.
Claude Mauprivé, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre et bonjour chers auditeurs de RCF.
Merci Claude Mauprivé d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est vrai que vous êtes maire de Bouilly, alors c'est peut-être l'occasion quand même de présenter votre commune, combien d'habitants, où ça se situe, Claude Mauprivé, Bouilly.
Eh bien, Bouilly, c'est à 15 km au sud-ouest de Reims, au tout début de la région du Tardenois. Voilà. On est 235 habitants aujourd'hui. La commune de Bouilly, la particularité peut-être, c'est qu'il y a 30% de la surface qui est en forêt. Voilà, on a 55 hectares de vignes sur les 550 hectares du territoire.
Vous êtes maire quand même depuis combien d'années, Claude Mauprivé, à Bouilly ?
Alors ben moi je suis à mon troisième mandat. En fait j'ai fait deux mandats successifs de 2001 à 2013 et j'ai repris du service en 2020.
Alors vos motivations pour être maire, on sent que vous êtes un maire passionné par votre commune. Quelles sont vos motivations? Quelles ont été vos motivations pour être maire quand vous avez été élu?
Bah, quelque part, je dirais c'est peut-être un ADN familial qui ressort, puisque mon grand-père a été maire sur Besanne, mon père a été maire, j'ai des oncles qui ont été maires, donc en fait la fonction de maire, je l'ai toujours côtoyé depuis que je suis tout petit, voilà. Et quand en 2001, ici à Bouilly, le maire de l'époque, pour lequel j'étais adjoint, m'a dit, Claude, moi j'ai fait trois mandats, j'arrête, prends le relais s'il te plaît, j'ai pas hésité une seconde.
Alors cette commune de Bouilly, vous dites plusieurs centaines d'habitants, mais comment caractériser il y a des viticulteurs, il y a des agriculteurs, il y a des retraités, des jeunes, enfin, quelle est la photo?
Il y a un peu tout, mais bon, c'est pas vraiment un village dortoir, mais presque. Hein, puisque on se situe à 15 km de Reims, sachant qu'il reste 6 viticulteurs et un agriculteur, donc ça c'est la partie économique du village, c'est celle-ci, et tout le reste, soit à peu près 60% de la population active, va sur le bassin rémois, donc avec ce qu'on appelle finalement une bonne proportion de pendulaires, donc des personnes qui font...
Qui reviennent régulièrement. Voilà, alors justement, Claude Mauprivé, parce qu'on a quand même plusieurs sujets à voir, le temps passe très très vite, donc il y a des maires aussi qui se disent, il y a un manque de vocation parfois, parce qu'il y a des responsabilités, les gens se disent, oh là là, c'est lourd quand même.
Oui, c'est vrai que c'est lourd, alors tous les... à mi-mandat, comme on est actuellement, c'est vrai qu'à chaque fois, on entend dire que seulement 40% ou 50% des maires vont se représenter la prochaine fois. Et puis finalement...
Et finalement, ça marche quand même.
Finalement, ça marche quand même. On se trouve toujours. Même si c'est pas évident. Alors, là, présentement, moi, quand je suis revenu en 2020, il faut savoir qu'il n'y avait que 5 personnes de l'ancien conseil qui se représentaient. Et pas un seul voulait prendre la tête pour devenir maire. Donc...
Alors, il y a une nouveauté depuis quelques années, ce sont les communautés de communes. Alors, ce n'est pas forcément votre avis, hein, Claude Mauprivé, je me provoque un peu, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent, est-ce qu'on est encore le patron chez soi? Est-ce que le maire, parce que ça représente quelque chose, le maire?
Alors, c'est vrai que les communautés de communes, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est que ce sont devenues des plus grosses intercommunalités. Nous ici, depuis 1973, on était en communauté de communes, on était en district à l'époque. Hein. Mais ce qui est nouveau, effectivement, si on considère le secteur, c'est la naissance de la communauté urbaine du Grand Reims, avec ses 143 communes. Voilà. Après, est-ce qu'on est encore le patron? Eh bien, même si beaucoup de compétences sont parties à la communauté de communes, oui, quelque part, on est encore le patron. Puisqu'il y a cette charte de gouvernance au niveau du Grand Reims qui dit que à partir du moment où un dossier intéresse une commune, rien ne se fera contre l'avis du maire et ou de son conseil municipal. Donc c'est quand même quelque part un droit de veto sur nos affaires qui existe toujours.
Claude Beauprivé, alors quelles sont les demandes, les requêtes, les questions que vos administrés, les habitants de Bouilly vous demandent en priorité?
Alors moi je trouve qu'il y a une évolution, voilà, depuis, alors c'est vrai que vous avez compris, j'ai fait un break de 6 ans sans être maire et je n'étais même plus au conseil municipal, moi, parce que j'avais trop de boulot. Moi je trouve qu'aujourd'hui les requêtes deviennent de plus en plus personnelles, c'est-à-dire que voilà, c'est les gens, ils s'intéressent à leurs propres petites affaires. Moi, je trouve, hein, je trouve que ça a évolué. Alors, je ne sais pas si c'est d'une façon générale, mais je le vis au quotidien. Voilà, je dirais, il n'y a pas vraiment de grandes attentes pour la commune ou autre. En tout cas, ça n'intéresse pas d'intéresser les gens. Et c'est surtout, voilà, c'est mon truc, mon trottoir, quand est-ce qu'il va être nettoyé, oui. est-ce que j'aurai bien une déco de Noël sur mon lampadaire. Voilà.
Alors justement, Claude Mauprivé, quels sont vos projets en cours, à long ou à court terme, avec la commune de Bouilly?
Alors, au niveau de la commune, le projet propre, court terme et moyen terme, parce qu'il faut du temps, c'est on a entrepris la rénovation énergétique de nos logements communaux. On a quatre logements au niveau de la commune, ce qui est quand même pas mal, hein. Et on entreprend un par un la rénovation énergétique complète. Là, on est sur l'ancien presbytère, hein, qui était devenu après gîte rural, et puis après qu'on a loué. Et là, on est en train de le refaire de fond en comble. Voilà. Bon, c'est comme un budget pour quelque chose qui fait 70 mètres carrés. C'est un budget de plus de 100 000 euros. Voilà. Donc on sollicite des aides de la région. Et on fait rail pour trouver les entreprises, voilà, donc, et on va faire tous les bâtiments comme ça, un par un. Puis après, on a un autre projet. Alors, c'est pas vraiment un projet, mais c'est quelque chose qui nous occupe. C'est la renaissance du domaine de Cométreuil. Le domaine de Cométreuil, dont on entend parler régulièrement dans la presse, il est sur la commune de Bouilly. Mais je pense que ça sera peut-être l'objet d'une autre émission.
Oui, parce que c'est un dossier important. Vous êtes attaché au projet nouveau de réhabilitation de ce domaine. On aura l'occasion d'en reparler, qui permet des visites
au niveau de la commune.
Au niveau de la commune, ça vous branche et ça vous intéresse. On fera une émission d'ailleurs là-dessus parce que c'est... Alors pour terminer, parce que le temps passe vite, hein, Claude Mauprivé, mère et vie professionnelle, mère et vie familiale, bon, pour encourager peut-être des gens à se lancer dans les petites communes au fond des Ardennes, là, c'est compatible tout ça?
Oui, alors il faut de la souplesse. Il faut de la souplesse dans l'emploi du temps, voilà, parce que c'est compatible. En 2001, donc j'étais en plein milieu de ma période active quand j'ai commencé, j'ai toujours eu coutume de dire qu'à l'époque j'étais salarié, que mes 22 jours de RTT, ils passaient à la mairie, que la moitié de mes vacances passaient à la mairie, et surtout j'avais la chance d'avoir un poste relativement autonome. donc où je pouvais éventuellement m'absenter.
Vous organiser. Il nous reste très peu de temps.
Il faut de la disponibilité, c'est clair.
Très peu de temps, Claude Mauprivé, c'est presque, j'allais dire un oui ou un non, presque. Hein. Êtes-vous un maire heureux? On vous sent passionné? Vous aimez votre commune? Vous aimez Bouilly?
Oui, je suis heureux. On aime ce qu'on fait. Voilà. Après, je suis d'autant plus heureux que j'ai bien signifié que c'était mon troisième et dernier mandat. Voilà. Et qu'il fallait, préparer la suite. Mais effectivement, tant que j'ai l'envie, je continue. Mais
merci, merci Claude Mauprivé. Et à très bientôt sur RCF. Très bientôt, Claude Mauprivé, maire de Bouilly. La semaine prochaine, on réécoutera de nombreux maires, puis à partir de novembre, des maires entre guillemets nouveaux que nous aurons rencontrés. Il est pour l'instant 18h30, l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudretz qui est en direct avec nous.
Avec les titres de ce jeudi 26 octobre, les 50 bâtiments qui composent le CHS Bel Air à Charleville-Mézières, éparpillés sur 30 hectares, vont être démolis et reconstruits. Objectif, gagner en attractivité et renforcer la prise en charge médicale des patients tout en étant acteur de la transition écologique. Pour soutenir le développement du covoiturage, l'agglomération d'Épernay s'est engagée dans un partenariat avec l'application Klaxit.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Et on commence par aller au CHS Bel Air à Charleville-Mézières. La phase 1 des travaux validés par l'Agence régionale de santé en juillet 2021 d'un coût de 27 millions d'euros avance. Les travaux de démolition de certains bâtiments vont débuter pour un début de construction courant 2024 des unités d'accueil et d'orientation et unités fermées, une réhabilitation de la gérontopsychiatrie et un agrandissement du service d'alcoolologie. Les premières unités pourrait ouvrir d'ici la fin du premier semestre 2027 et concerne 140 lits. Quant à la phase 2, à savoir la construction d'un village médico-social, elle vient de commencer il y a quelques jours. Le choix du projet architectural étant désormais acté, le village médico-social qui regroupera la MAS, la maison d'accueil spécialisée, et le FAM, foyer d'accueil médicalisé, devrait voir le jour en 2026 à l'issue de 18 mois de travaux. Thomas Talek, directeur par intérim du CHS Bel Air, revient sur les objectifs de ce village médico-social.
Notre souhait, c'est que chaque résident ait une chambre individuelle, ce qui n'est pas le cas actuellement, une chambre individuelle et spacieuse. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la qualité de conditions de travail des agents. Quand vous travaillez dans des espaces exigus, ça génère de la tension nécessairement et donc les conditions de travail sont plus difficiles. Et le troisième objectif, c'est d'engager ou de poursuivre la dynamique de transition écologique du CH Bel Air. C'est un objectif important pour notre établissement. Et donc le choix qui a été fait de l'architecte tient vraiment compte de cet aspect, notamment avec le respect du parc arboré de Bel Air, qui est vraiment, je trouve, sublime. Et donc tous les résidents, que ce soit de la MAS et du FAM, depuis leur chambre, vont avoir un accès à la verdure, à l'extérieur, à la lumière. C'est important parce que ça apaise aussi les résidents, donc ça contribue à une meilleure prise en charge.
Le village médico-social représente une surface de 3321 m² existante à laquelle va s'additionner une nouvelle construction femme de 1600 m². Il permettra d'accueillir 78 patients, 60 pour la masse et 18 pour le femme, dans des chambres de 21 m² chacune. La place du village, entre guillemets, c'est-à-dire les espaces collectifs et de partage, permettront la mixité des patients où certains très handicapés côtoieront ceux qui le sont moins. Une démarche rare en France aujourd'hui qui permettra également la mutualisation des équipes et donc une présence soignante plus importante. Christophe Bailly, cadre supérieur de santé, responsable du groupement médico-social.
C'est un lieu qui sort, je dirais, géographiquement de l'enceinte de Centre Hospitalier Bel Air avec sa consonance psychiatrique. Nous sommes donc dans un établissement médico-social et bien loin de la psychiatrie, même si bon nombre de résidents ont un handicap psychique, bien évidemment. Le fait de faire cohabiter pendant un moment dans la journée des résidents, comme vous le dites, qui ont certains des profils très handicapés et d'autres un peu moins, va permettre justement de favoriser leur vie sociale, de les, si je puis dire, de les tirer vers le haut, bien sûr en toute connaissance de leurs capacités actuelles, en espérant qu'elles seront maintenues. On sait qu'ils vieillissent et que, indéniablement, leurs capacités peuvent se réduire. Néanmoins, il y a cette idée d'améliorer la vie sociale et affective des résidents parce que c'est un droit et aussi, je dirais, entre guillemets, de les tirer vers le haut par se mélanger dans des activités, les faire ensemble, se servir des capacités de l'un pour être un peu porté. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de les maintenir en capacité le plus longtemps possible.
La construction du village médico-social correspondant à la phase 2 du projet de reconstruction de l'hôpital représente un investissement total de 5 millions d'euros. Les deux premières phases représentent donc 32 millions d'euros d'investissement. Viendront ensuite les phases 3 et 4 pour un hôpital totalement reconstruit d'ici 2030. Demain, vendredi 27 octobre, on célébrera le Champagne Day, en bon français la journée mondiale de célébration du champagne. Le Champagne Day aura lieu donc demain à 3, œnosphère, orchestre, la 5e édition d'une soirée spéciale au Cellier Saint-Pierre avec la présence de 5 domaines de champagne, des masterclass de dégustation, des animations live food mais aussi un show artistique vont rythmer la soirée qui se clôturera par une vente aux enchères caritative au profit de l'association Roseau et une soirée dansante. Depuis le 1er septembre, la communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne a lancé un service de covoiturage via l'application Klaxit, une filiale de Blablacar Daily. Pour Franck Leroy, président de l'agglo, l'idée est de diversifier les modes de transport.
On prend tous notre voiture pour aller travailler et on est trop souvent seul dans une voiture. Demain, en covoiturant, on remplit notre devoir à l'égard du changement climatique, c'est-à-dire qu'on va baisser l'empreinte carbone de chacun des automobilistes en accueillant dans sa voiture quelqu'un d'autre qui va, trouver avantage également à partager votre voiture et vous pouvez aussi être dans la voiture de quelqu'un d'autre.
Klaxit récompense les conducteurs mais aussi les passagers. Franck Leroy.
Les automobilistes par une prime de 2 à 3 euros sur la taille des parcours et les covoitureurs, ceux qui vont monter dans votre voiture, ne vont payer, quel que soit le parcours, que 50 centimes d'euros. Quand on est à une époque où les coûts du carburant sont un vrai problème pour le pouvoir d'achat, ça peut, dans le maximum des cas, c'est-à-dire si on covoiture tous les jours, vous rapporter jusqu'à 160 euros par mois. Ça veut dire que votre facture énergétique, elle est pratiquement effacée par le fait que vous covoiturez. Et covoiturer, c'est simple. On est parfois, on ne se rend pas compte qu'on va d'une ville à une autre, d'une commune à une autre, tous les jours, et peut-être qu'à 200 mètres de chez vous ou à 300 mètres de chez vous, il y a quelqu'un qui fait le même parcours. Alors plutôt que d'avoir tous une voiture, on partage la voiture, on gagne de l'argent, on contribue à relever le défi climatique parce qu'évidemment, moins de voitures en circulation, moins de voitures thermiques en circulation, c'est mieux pour le climat.
Propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Klaxit est gratuite et se veut simple d'utilisation. En janvier 2021, elle comptait 30 collectivités locales partenaires, l'agglo d'Épernay et la première de la Marne à solliciter les services développés par Blablacar Daily. Sport, deux résultats de basket féminin. Après avoir bataillé pendant tout un match puis deux prolongations, les Flammes Carolo se sont finalement inclinées pour la troisième journée d'Eurocoupe féminine sur le parquet de Brno en République tchèque, 76-70. Les Ardennaises conservent cependant la tête du groupe à mi-compétition. En 16e de finale de Coupe de France, le Champagne Basket féminin, qui évolue en Ligue féminine 2, s'est incliné sur son parquet 61-83 face à Saint-Amand-Hainaut, équipe de Ligue féminine de basket. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Dans ce magazine régional, on retrouve avec nous par téléphone Luc Jeunet, président des Amis de l'Ermitage Saint-Valfroid. Luc Jeunet, bonjour.
Oui, bonjour Alexis. Merci de vous intéresser aux Amis de l'Ermitage Saint-Valfroid. Nous sommes comme des amis, donc nous sommes un peu dans l'ombre. Et nous avons différentes activités qui nous permettent de trouver des fonds de façon à embellir le site de Saint-Valfroid et de participer aux différents travaux qui sont réalisés. Et là, c'est notre loto.
C'est pour ça qu'on vient vous voir, Luc Jeunet. C'est votre loto, j'allais dire, annuel. Ça se passe ce samedi.
Alors, on en a deux, on en a au printemps, au mois d'avril, et puis un d'automne, donc au mois d'octobre. Et ce loto nous permet de dégager quelques fonds que nous allons utiliser pour mettre à disposition de l'association de Saint-Valfroid et d'embellir le site. Avec différents lots, hein, un lave-vaisselle, une télévision, un robot pâtissier, des tablettes, un robot Kenwood, et différents bons aussi qu'on remet de façon à aussi stimuler le commerce local, parce que le commerce local aussi a besoin d'un soutien des associations qui sont localement. Voilà en gros ce que je voulais te présenter, Alexis.
Alors Luc, vous donnez rendez-vous à nos auditeurs ce samedi 28 octobre à la salle polyvalente de Margues.
Tout à fait. Alors Margut, oui, Margut et Quintet, les Allemands prononçaient Margut. En fait, oui, la salle polyvalente qui est mise à nos dispositions par la mairie, et je remercie donc le maire de Margut qui nous accueille dans cette belle salle. Et nous allons accueillir tous les gens. Alors il y a des habitués qui viennent, et puis il y a d'autres personnes aussi qui viennent découvrir un peu comment ça fonctionne. Nous avons un boulier électronique qui permet d'afficher aussi les numéros pour les personnes qui sont un peu malentendantes. Ça permet de mieux communiquer avec l'Assemblée. Et c'est toujours des temps de joie, de partage. Nous avons aussi une petite restauration pour permettre aux gens de venir se restaurer durant les temps de pause que nous offrons durant le temps de la soirée pour éviter de bloquer tous les gens uniquement sur le numéro.
Le rendez-vous, c'est à partir de 18h30 ce samedi 28 octobre à la salle polyvalente de Margut. Évidemment, on l'a bien compris avec les amis de l'Ermitage à Saint-Valfroid-Lugenay, il y a de très beaux lots à gagner. Mais l'idée, c'est avant tout de partager un bon moment tous ensemble et puis de soutenir les amis de l'Ermitage Saint-Valfroid qui régulièrement pendant l'année organisent différentes manifestations. On vous retrouvera d'ailleurs courant novembre pour parler d'autres initiatives qui ont été lancées récemment. Merci d'avoir été avec nous dans ce magazine régional, Luc Genet, et on vous dit à très bientôt. On donne rendez-vous à tous nos auditeurs samedi 18h à la salle polyvalente de Margut.
Et merci à toi Alexis pour ton soutien et merci aussi de la ferveur avec laquelle tu présentes l'association. Merci Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h40, les scouts unitaires de France se sont rassemblés du 21 au 23 octobre à Lépine pour deux événements, le Rassemblement National Routier et les Feux de Toussaint, autour du thème « Parle, mon cœur est prêt ». Retour sur ce grand week-end avec Jeanne Perrin et Martin de Garcini, responsable communication de ces deux événements, au micro de Christopher.
Je vous emmène du côté de Lépine à la rencontre des scouts unitaires de France avec Jeanne Perrin, responsable communication de l'événement Les Feux de Toussaint qui s'est déroulé ce week-end du côté de Lépine. Également Martin de Garcini, responsable de l'événement, cette fois-ci du Rassemblement National Routier chez les garçons. Bonjour Martin.
Bonjour.
Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Merci de prendre ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet avec ces deux événements qui se sont déroulés tout au long du week-end du côté de Lépine, un petit clin d'œil quand même, un petit zoom sur les Scouts Unitaires de France, Martin.
Alors les Scouts Unitaires de France, c'est une association catholique de scoutisme qui a été créée en 1971 et qui compte aujourd'hui un peu plus de 30 000 membres.
30 000 membres. Alors on peut dire que Jeanne, c'est une formation, une école avec un but bien précis. Quel est le but justement du scoutisme?
Alors chez les SUF, on a 5 buts du scoutisme. À la fois le développement du caractère et de la personnalité, faire grandir nos jeunes avec un sens de la santé et pour avoir une vie saine dans la nature. On travaille aussi pour faire grandir nos jeunes avec l'acquisition de compétences et le sens du concret, pour qu'ils puissent grandir avec des choses concrètes pour leur vie de tous les jours. Et puis on est dans des groupes avec plusieurs jeunes à travers le sens du service. Ils peuvent grandir ensemble avec les autres, en s'entraidant les uns les autres. Et puis tout ça au regard de l'idéal chrétien et avec le sens de Dieu qui lie un peu les quatre sens précédents.
Beaucoup d'objectifs, beaucoup de missions au Scout Unitaire de France. On peut dire, Martin, que c'est une formation adaptée à tous les âges, enfin presque.
Oui, exactement. Alors les Scouts Unitaires de France, ils proposent une pédagogie adaptée à chaque âge, de 8 ans à 25 ans. Et pour ce qui nous concerne, ce week-end, on accueille des guides aînés, les filles, et des garçons, les routiers, qui ont chacun entre 18 et 25 ans. Et là, l'objectif, c'est de permettre à chacun, chaque jeune adulte, justement de grandir et de s'affermir pour devenir des femmes ou des hommes chrétiens, engagés, heureux, et des citoyens responsables pour servir dans la société.
Alors Jeanne Perrin, comment vous faites grandir justement ces jeunes?
Au guide aîné et au routier, on a 3 piliers. On fait grandir nos jeunes à travers l'aventure, à travers le service et à travers la vie spirituelle, la prière. Et donc on fait en sorte que dans chacune de nos activités, on arrive à retrouver les 3 piliers.
Alors ça représente combien de jeunes au Scout Unitaire de France?
Alors on a 33 000 jeunes accueillis au Scout Unitaire de France, donc répartis dans 228 groupes. On a 4540 chefs et cheftaines qui sont là pour encadrer tous ces jeunes, qui se forment et qui font grandir ces jeunes et qui grandissent eux aussi.
Quand on dit 228, c'est 228 groupes répartis dans toute la France?
Oui, exactement, dans chaque région de France. Il y a des groupes un peu partout, notamment en Champagne, il y a des groupes à Châlons en Champagne aussi.
Alors en termes d'effectifs, parce que là on parlait un petit peu de jeunes, mais pour encadrer ces jeunes, eh bien, des salariés quand même, malgré tout. Il faut des bénévoles. Ça représente combien au Scout Unitaire de France ?
On a 380 bénévoles et 17 salariés voilà, qui travaillent pour le mouvement des Scouts Unitaires de France.
Ouais, c'est quand même un bel effectif et il y en a besoin, bien forcément, hein, pour créer de beaux rassemblements comme on va présenter dans un court instant. Alors justement, même tout de suite, j'ai envie de dire, avec Martin de Garcini, je rappelle, responsable communication de l'événement national, Rassemblement National Routier, qui s'est tenu ce week-end du côté de l'Épine. Martin de Garcini, parlez-nous un petit peu de ce rassemblement. Alors là, c'était un rassemblement du côté des garçons.
Exactement. Alors, on a pensé ce rassemblement autour du sanctuaire Notre-Dame de l'Épine. Et l'objectif, c'était vraiment de proposer à nos 700 jeunes une démarche de pèlerinage. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par marcher. On est parti de Verzy. On a traversé des petits villages dans lesquels il y a eu la messe. Les paroissiens nous ont accueillis et c'était vraiment touchant de voir les échanges entre les routiers et les paroissiens. On est passé, par exemple, à Trépaille, à Villers-Marmerie. Et puis, on a dormi à Bouy. Et puis, on est arrivé dimanche à l'Épine. Où on a eu une belle veillée d'adoration après la messe dominicale.
Alors ça a démarré samedi matin, de Verzy ?
Exactement. En fait, les cars sont arrivés sur le parking des pins de Verzy. Et là, les routiers se sont séparés en plusieurs routes, plusieurs groupes d'une centaine de routiers chacun, pour aller justement traverser les différents villages et rejoindre l'Épine à pied.
De Verzy, ça fait quand même un beau parcours jusqu'à Châlons-Champagne. Le week-end s'est bien passé ?
Le week-end s'est très bien passé. Alors, les routiers étaient un petit peu fatigués le soir, effectivement. Vous avez une vingtaine de kilomètres, sac au dos. C'est quand même une belle aventure. Et en même temps, c'est aussi ce qui rend possible l'échange, la marche. Il n'y a quand même rien de mieux pour discuter avec des inconnus, puisque les routiers viennent de toute la France. Donc, c'est l'occasion de rencontrer des routiers du Nord, d'Arras, voilà, de Champagne aussi.
Alors vous avez dit, hein, près de 700 jeunes se sont retrouvés pour ce rassemblement national routier. Quel retour avez-vous justement de ces jeunes après ce pèlerinage ?
Eh bien écoutez, là on vient de plier bagages après le petit déjeuner et les routiers chantaient à 7h30 avant le petit déjeuner. C'était vraiment assez exceptionnel. Ça dit un petit peu quelque chose de l'état d'esprit ici, des jeunes qui sont quand même assez heureux, enthousiastes, qui sont vraiment présents. Et ça c'est vraiment touchant pour nous organisateurs.
Alors justement, vous, en tant qu'organisateur, c'est votre première organisation, premier pèlerinage à organiser ?
Alors c'est la troisième édition à laquelle je participe en tant qu'organisateur. Et celle-ci est aussi très belle. On découvre un sanctuaire, on rencontre, voilà, chaque événement a son lot d'aventures. Voilà, là, on a eu un petit peu de mal à monter les tentes avec le vent samedi soir. Mais bon, tout s'est bien déroulé et on est heureux d'être là aujourd'hui.
C'est vrai que le temps n'était pas spécialement au rendez-vous ce week-end. Parlons désormais de l'autre événement, cette fois-ci chez les filles. Jeanne Perrin, également responsable communication de l'événement. Donc cet événement, du côté des filles, les Feux de Toussaint, qui a démarré sur la même période, hein, de samedi à lundi, avant de parler de ce rassemblement, cette fois-ci, entre les deux événements. Tout d'abord, revenons un petit peu sur ce week-end chez les filles. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est très bien passé, malgré, comme vous le disiez, une météo fraîche. Les filles étaient très motivées. Donc nous, notre événement était centré autour du thème « Parle, mon cœur est prêt ». Voilà, les filles ont pu vivre des temps d'aventure, où elles ont marché autour de l'Épine. Elles ont pu avoir des beaux temps d'échange avec les sœurs présentes à l'Épine. Elles ont pu découvrir la basilique, avoir une présentation de ce qui s'est passé à l'Épine et notamment de l'histoire de la statue de la Vierge Marie. Elles ont eu des temps d'échange entre elles. Elles étaient heureuses de se retrouver entre guidées de toute la France, de pouvoir échanger sur leur vie quotidienne, ce qu'elles vivent en tant que jeunes femmes dans le monde, comment elles peuvent grandir chacune et se faire grandir les unes les autres. Elles ont pu rendre service. On a eu trois grands services. Un service aux propriétaires qui nous accueillaient. On a fait donc du jardinage, du paysagisme pour lui. On a eu notamment un service pour le sanctuaire où les jeunes femmes ont recopié la prière d'Odette Prévost. Voilà. Et on a eu un service pour l'extérieur où elles ont pu écrire des lettres pour des personnes âgées que nous distribuerons en maison de retraite. Donc voilà, le sens du service, une fois de plus, l'aventure, le service et la vie spirituelle, puisque nous avons eu un beau temps d'adoration dans la basilique et des beaux temps de prière tout au long du week-end.
Combien de jeunes filles étaient présentes à cet événement, les Feux de Toussaint?
Il y avait 600 jeunes filles de toute la France, des guides aînés et des cheftaines présentes, des quatre coins de France.
Quel retour avez-vous reçu justement des jeunes par rapport à ce grand et beau week-end?
Un retour très positif. Elles étaient très heureuses de se retrouver, très heureuses d'échanger, très heureuses de discuter, d'avoir vraiment des temps de partage. Elles ont eu notamment un beau témoignage de Marielle Devera, une productrice de télévision, qui leur a parlé de sa conversion. Donc ça a été un élément fort et marquant aussi pour certaines. Vraiment de découvrir l'Épine, c'était aussi, une grande joie pour certaines de voir un beau lieu, un beau sanctuaire avec plein de vie. Toute cette symbolique de l'eau avec le puits qui les a bien marquées aussi en tant que jeunes femmes.
Un bel événement, tout comme l'événement Rassemblement National Routier. Alors ces deux événements se sont retrouvés sur la toute dernière journée, ce lundi, avec, j'ai envie de dire, partage un petit peu de ce pèlerinage, de ces services, de ces découvertes, de ces visites, avec une célébration à la Basilique présidée par Mgr Touvet.
Les Feux de Toussaint et le Rassemblement National Routier sont deux événements qui sont conjoints. Et justement, le dernier jour, c'est l'occasion de se retrouver avec les filles et les garçons, les guides aînés et les routiers, pour un grand temps finalement de partage et de célébration. Vous l'avez dit, la messe, tout d'abord la messe célébrée par Mgr Touvet, un témoignage ensuite, et enfin un grand rassemblement scout pour se séparer, scoutement, dans la joie et la bonne humeur.
Avant de nous quitter, Jeanne Perrin, pour les auditeurs, jeunes auditeurs éventuellement, qui seraient intéressés à rejoindre les scouts unitaires de France, comment ça se passe?
Pour rejoindre, vous pouvez toujours aller sur le site des scouts unitaires de France et puis regarder, il y a des groupes un peu partout en France, dans vos villes et dans vos régions. N'hésitez pas à contacter vos paroisses aussi. On accueille toujours des jeunes à tout âge, à 8 ans pour entrer au Louveteau Jeannette, à 12 ans aux guides et aux éclaireurs et aux guides aînés et aux routiers à 17 ans, à partir de 17 ans et jusqu'à 25 ans.
Merci Jeanne Perrin, merci Martin de Garcini d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, responsable communication de ces deux événements, Feux de Toussaint et Rassemblement National Routier. On vous souhaite une bonne continuation et puis avec grand plaisir de vous retrouver au micro de RCF pour nous partager d'autres aventures chez les scouts. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour en savoir plus sur les scouts unitaires de France, rendez-vous sur le site scout-unitaire.org.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et nous, on termine ce jeudi avec Bernadette Courtehoux, déléguée diocésaine pour le diocèse de Reims et des Ardennes à la mission ouvrière. Elle répond aux questions de Jean-Pierre à mes côtés.
Bernadette Courtehoux, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes déléguée diocésaine à la mission ouvrière. Dans quelques jours, il va y avoir un événement qui va se dérouler à Cormontreuil. De quoi s'agit-il exactement?
Alors en fait, c'est un week-end, le week-end du 11 et 12 novembre. Donc dans les salles derrière l'église de Cormontreuil. Ça fait suite en fait à un week-end qu'on avait déjà eu l'année dernière. L'année dernière, on avait fait un week-end sur le sens du mot ouvrier.
Quand on dit ouvrier, ça paraît quand même 19e siècle. Mais il y a des ouvriers aujourd'hui qui sont techniciens de surface, comme on dit. Il y a plein de métiers. C'est des métiers ouvriers, des métiers manuels, des métiers...
Oui, alors voilà, on parle effectivement plus souvent techniciens de surface, il y a les caissières, il y a plein d'autres métiers. Et en fait, on a répertorié, nous sommes quand même 8 millions en France, 8 millions d'ouvriers avec les employés, avec des gens comme ça, quoi.
Alors ce week-end, il a pour objet d'inviter le maximum de personnes tous azimuts, alors évidemment dans le milieu catholique dans un premier temps, mais ça peut être très ouvert, avec des diacres, des laïcs, etc. Et l'objectif, c'est de montrer ce que vous faites, vous, pour donner des idées aussi aux autres.
Oui, c'est un peu ça. Et puis, aller vers le monde ouvrier, c'est le titre de notre week-end. Aller vers le monde ouvrier, c'est bien une mission pour toute l'Église. On ne veut pas rester entre nous. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs pastoraux, comme les personnes qui suivent la catéchèse, les funérailles, qui rencontrent énormément de monde, du monde ouvrier, même populaire. Et ça serait dommage d'en rester là, rester au sacrement. Mais pourquoi pas continuer avec les mouvements d'action catholique, avec ce qu'on peut proposer.
Parce que vous avez une certaine pratique, vous avez une expérience avec les gens qui sont au travail. Et toute l'année, d'ailleurs, vous leur proposez. Il n'est pas rare, moi j'ai entendu parler du côté de la Verrerie, du côté de Saint-Laurent, de cafés qui existaient, que vous mettiez en place régulièrement. De quoi s'agit-il ?
Alors, au niveau de la chapelle Saint-Laurent, dans le quartier de la Verrerie, c'est un endroit que notre archevêque nous a confié pour être présente d'église. Alors, on s'est dit qu'il fallait aller à la rencontre des habitants et tous les mardis matins, nous offrons le café, les biscuits, les petits chocolats avec tous les habitants qui veulent venir.
Et donc, ça a marché, vous avez du monde.
Ah ben, on a répertorié une centaine de personnes différentes depuis 125 exactement semaines.
Et, mais j'ai l'impression que vous notez tout là.
Alors, on note tout parce que après, vers midi, on renote les expressions des personnes rencontrées. Alors, ça va des problèmes vraiment très basiques, des problèmes d'ascenseur, des problèmes un peu plus compliqués de la vie de famille, de la vie de quartier. C'est vraiment tout azimut. Et ce qui est intéressant, c'est que ces rencontres-là, ça fait germer des choses. Ça fait germer des choses parce que il y a des habitués du quartier comme Micheline, Francis, Gilbert, qui nous demandent, vous faites des réunions. Nous aussi, on aimerait bien aller en réunion. Alors, du coup, on propose, une fois par mois ou tous les 6 semaines, des partages autour de leur vie à la lumière de l'évangile ou d'un texte du pape. Et puis, on échange comme ça. C'est assez intéressant.
Ça veut dire que vous allez au-devant des personnes. Ça, c'est très important.
On va vers, oui.
Vous allez vers les personnes. Mais alors, ce week-end, les 11 et 12 novembre, c'est de 10h à 16h. C'est à Cormontreuil, une place Jeanne d'Arc, dans les salles paroissiales, derrière l'église Saint-André de Cormontreuil. Qu'est-ce qu'on fait pour vous joindre? Comment fait-on? Vous appelle, on vous contacte?
Il suffit effectivement soit de m'appeler au 06 72 94 53 38.
Alors les numéros, c'est pas toujours facile à la radio, mais on va les redonner. 06 72 94 53 38. Ou alors,
on essaye. Par mail.
Alors Bernadette Courtehoux, mais c'est peut-être pas facile à énoncer. Bernadette, on sait écrire. Courtehoux, courtehoux, @wanadoo.fr.
Voilà.
Alors le programme, c'est varié. Matin et après-midi,
voilà,
on ne va pas entrer dans tout le détail.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que notre archevêque sera là de 16h à 21h même, avec la célébration à 18h à Saint-Laurent. Mais on avait demandé à notre évêque une intervention parce qu'on savait bien que le monde ouvrier, c'était pas qu'une affaire des ouvriers, ça intéressait toute l'Église. Et l'Église a une mission envers toutes les personnes, ouvrières ou autres. Donc,
c'est l'intervention autour de ce sujet de l'archevêque de Reims, l'Église a une mission.
Oui, tout à fait, oui. Et puis ça va bien dans le sens de kérigma.
Il nous reste 3 minutes justement, venez de donner l'expression. Kérigma, moi j'en ai entendu parler parce qu'il m'arrive d'écouter RCF, et l'archevêque de Reims s'est exprimé. C'est un rassemblement qui a eu lieu à Lourdes jeudi dernier jusqu'à lundi, c'était il y a 2-3 jours. Mais vous y étiez vous, Bernadette Courtehoux?
Tout à fait, nous étions 4 de la mission ouvrière. On est enthousiasmés, on a vu qu'effectivement ce qu'on a déjà initié dans nos mouvements d'action catholique, on est heureux que l'Église se saisisse de ce problème, d'aller vers les gens, non pas qu'ils viennent à nous, mais qu'on aille vers eux, qu'on les écoute, qu'on les accueille tels qu'ils sont, avec leurs problèmes, leurs difficultés, et ça nous a confortés dans notre mission, et donc ce week-end du 11 et 12 va bien dans ce sens-là.
Ça veut dire que là, vous avez vu que vous n'étiez pas toute seule, que ça existait partout en France, qu'il y avait des initiatives tous azimuts pour aller vers.
Il y avait 200 initiatives qui ont été proposées dans un endroit là qui s'appelait la pépinière d'idées. Bon, j'en ai relevé un petit peu quelques-unes. J'ai relevé le café du curé, donc ça représentait un peu notre café de Saint-Laurent. Il y a aussi des initiatives d'accueil pour les mamans et les bébés dans d'autres coins. Il y a des initiatives sur les parvis les gens s'expriment et même écrivent l'évangile comme ça sur des palissades quand l'église est en reconstruction. Il y a plein d'initiatives nouvelles. Moi, j'ai mis justement celle de la Verrerie en plus. Donc, il y a des petites pousses qui germent un peu partout. Et là, c'en est vraiment que des exemples, il y en a 200 donc, au moins qui étaient répertoriés, plus toutes celles qu'on rajoutait, donc c'était énorme.
Voilà de belles initiatives de prise sur le territoire par Bernadette Courtehoux, déléguée à la mission ouvrière pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Elle était au micro de Jean-Pierre Benoît, que vous retrouverez demain dans le magazine régional avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Mais mieux que cela, sur RCF France Ardennes, dès 7h du matin, évidemment, il sera là présent, fidèle au poste. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais sur RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne, sur RCF Champagne Ardennes. Également, c'était Thierry Delis à la mise en onde ce soir. On se retrouve demain, vendredi, pour un dernier magazine régional avant les vacances, puisque l'on prendra la semaine prochaine une petite pause, mais vos programmes locaux continueront de vous accompagner, donc pas de quoi déconnecter de vos stations préférées. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. À demain.